Xavier, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'on raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio, la radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Bonjour, 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 bienvenue sur Silence Radio, sur les ondes du 105.4 FM Radio Panique. Aujourd'hui, nous allons faire une émission dans le cadre de la programmation transversale de Radio Panique Trans Normal. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, c'est quoi être normal? Est-ce qu'il faut suivre la masse pour trouver sa place? Si l'on se demande si c'est pas la société qui est anormale plutôt que des citoyennes qui ne tournent pas rond. Alors, aujourd'hui, nous avons comme invité François Weingarten.
Bonjour.
Et nos fameux chroniqueurs Pascal.
Bonsoir.
Chantal.
Bonsoir.
Et Gwendoline.
Bonsoir.
Alors, François, qui est un ex-chroniqueur. Pardon, chroniqueur de Silence Radio, je vais le laisser se présenter lui-même.
Merci. C'est vrai que je suis ravi d'être de retour, ça fait quelques années maintenant. Me présenter donc, je m'appelle François, je travaille dans le secteur de la psychiatrie depuis un bon bout de temps maintenant, une vingtaine d'années. Et j'ai fait de la recherche dans le domaine de la santé publique sur les questions de réseau dans le domaine de la santé mentale. Et j'ai coordonné divers projets, diverses associations, qui impliquent des usagers de la santé mentale, soit qui impliquent également des professionnels de tous ordres. Voilà, je suis ravi d'être là.
Et au départ, tu es sociologue, non ?
Oui, je suis sociologue et j'ai un doctorat en santé publique.
Merci François. Et sans plus attendre, nous allons écouter un petit gimmick.
C'est normal.
Oui, oui, oui.
Ouais. La 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 la.
Merci pour ce gimmick dont le titre est « C'est normal ». Et sans plus attendre, Gwendoline, qui se trouve avec nous en studio, va nous présenter une chronique et un texte qu'elle a écrit.
Bonsoir, bonsoir, chers éditeurs. Une chronique sur l'anormalité. S'il est facile de s'accorder sur la notion de l'anormalité, ce qui désigne tout ce qui est en dehors des normes, il m'apparaît nettement plus compliqué de s'entendre sur ce que sont les normes. Les normes évoluent tout au long de l'histoire. Avant 1949, il était inconcevable ici en Belgique que les femmes votent. L'avortement a été dépénalisé en 1990. Avant 2002, pas question d'euthanasie active. Avant 2003, il était impossible à deux personnes du même sexe de se marier. Avant 2020, qui aurait pu croire qu'un transgenre devienne ministre ? Les normes se modifient au gré des époques et avec elles la notion d'anormalité. Pour un mieux, bien souvent de chez nous, en vertu d'avancées sociales légitimes. Mais qu'en est-il de la santé mentale ? En 1935, on soignait par lobotomie cette charmante pratique qui consistait à enfoncer un pic à glace dans l'orbite du patient grâce à un marteau. En 1940, progrès technologique oblige, les soignants administraient un courant électrique dans le cerveau pouvant aller jusqu'à 200 volts à l'aide de deux électrodes placées sur les tempes. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La psychiatrie a sa nouvelle Bible, le DSM, qui apporte à chaque trouble une réponse médicamenteuse appropriée. Un antidote contre la normalité désormais. Rien n'est moins sûr. Ce juteux business pharmaceutique a fait de la pathologisation son credo et chaque comportement anormal, en dehors des normes donc, est toujours considéré comme une maladie. Dans le DSM-5, dernière version datée de 2015, on recense 400 troubles mentaux contre 100 à peine dans la première édition parue en 1952. Une progression de 400% qui stigmatise plus encore les gens qu'autrefois. Étrangement, les déviances explosent exponentiellement comme la notion d'anormalité par voie de conséquence. La question est de savoir si notre époque est propice à un déchaînement de la confusion mentale ou si, plus prosaïquement, l'appât du gain crée l'anormalité au profit de psychiatres et de laborantins serviles devenus tous plus fous que les individus qu'ils prétendent aider. Fous d'enrichissement, sur le dos de Kobe désemparé, prêt à croire le premier prophète de pacotille venu. Comme nous sommes à quelques jours d'un moment cher aux chrétiens, je me permettrai de citer deux phrases d'un homme qui a toujours eu à cœur de guider bienveillamment et gratuitement ses semblables. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pour avoir prêché l'amour du prochain, qu'il soit normal et surtout anormal, ce brave type a fini sur une croix. Et s'il revenait aujourd'hui parmi nous, il finirait dans une chambre capitonnée. Un obscur psychanalyste, Frédéric Joie, lui a diagnostiqué une méga paranoïa profonde, une tendance sadique anale et un sérieux complexe d'Oedipe inversé. Pas sûr que 2000 ans plus tard, nous ayons fait finalement de grandes avancées dans l'accueil de la normalité à tout point de vue.
Merci Gwendoline pour cette chronique. Et pour continuer cette émission, nous allons écouter un micro-trottoir et la réponse à cette question pertinente, c'est quoi être normal ? C'est quoi pour toi la normalité ?
Tout sauf moi.
Ah ouais, ça commence fort là, ouais. Ressembler le plus possible à ce que les autres attendent. C'est assez flou, hein.
La normalité, ben c'est comme je suis. Moi, je représente la normalité. Pas la normalité avec apostrophe, non, non, non. La normalité, c'est moi. Tu comprends ?
La norme. La norme, c'est la masse, quoi. Voilà.
Pour toi, que représente le mot normalité ?
Rien de rien, R de R. Si vous voulez un peu d'aventure, si vous avez peur d'aventure, restez dans la routine, c'est mortel, vous mourrez aussi, quoi. C'était un truc... Voilà, dans les normes, ça m'intéresse plus.
La normalité, ce serait... Enfin, ça devrait, en tout cas, être laisser de l'ouverture aux autres, en fait, et de... Ouais, de pouvoir se permettre d'être un petit peu comme on veut, quoi. Une norme assez positive, en fait. En fait, la normalité, c'est une espèce de vivre ensemble.
Et je vais interpeller notre invité. Alors, j'ai une question à lui poser. En tant que sociologue, comment définirais-tu la norme en partant peut-être de l'étymologie du mot norme, c'est norma, la mesure, le statut de la marge a changé au cours de l'histoire. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il eu ce moment de bascule ?
Qu'est-ce que la norme, donc ? C'est une grande question.
Et qu'est-ce que tu as pensé du micro-trottoir ? Qu'est-ce que ça t'a évoqué ?
Oui. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y a des choses assez différentes dans ce micro-trottoir pour lesquelles je pourrais revenir. Mais c'est vrai que la norme, c'est un point de repère par rapport auquel on va mesurer des comportements. Alors, la norme, ça peut être simplement ce que fait une majorité de gens. Et donc, on va considérer comme normal, habituel, simplement parce qu'il y a une majorité de gens qui le font. Mais la norme, c'est un peu plus que ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'on va faire pour se sentir inclus dans un groupe, pour se sentir ressembler, pour se sentir appartenir à un groupe dans lequel on a envie d'appartenir. Ça a un double effet, la norme. Ça peut avoir un côté très, très positif, parce que ça va permettre d'inclure des gens en se reconnaissant dans des éléments qui nous rapprochent. Et donc, c'est un côté assez intégrateur. Mais évidemment, par le fait même, ça pointe aussi la différence d'autres gens et du coup, ça a un côté excluant également. Et je crois que le dernier intervenant dans le micro-trottoir évoquait cet aspect positif de la norme, cet aspect du vivre ensemble. Et donc, c'est vrai qu'une norme largement partagée dans un groupe, ben, c'est quelque chose qui favorise le vivre ensemble. Et puis, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que la norme a un pouvoir encore... supérieur, c'est-à-dire que ce sont des comportements ou des idées ou des éléments qu'on partage, mais qu'on a véritablement envie au plus profond de nous-mêmes, auquel on a véritablement envie de correspondre, en fait. Et donc c'est quelque chose d'assez puissant, même si on peut avoir conscience que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps et que c'est pas quelque chose de naturel, que c'est pas une valeur en soi, c'est quand même quelque chose auquel on a vraiment foncièrement envie d'adhérer. Et donc c'est pas du tout évident de s'en détacher de cette norme-là, même si on a conscience du processus.
Mais ça peut sembler une facilité d'être justement dans la masse, de se fondre dedans un petit peu.
C'est ça le pouvoir intégrateur. Ça nous fait sentir chez nous, finalement. ça nous fait sentir à la maison, le fait qu'on partage des choses avec d'autres gens autour de nous. Et parfois, c'est aussi simplement des outils de communication, en fait. Hein. La norme, c'est aussi la manière dont on se salue, la manière dont on va les uns vers les autres. Quand on partage ce genre d'éléments avec d'autres gens, on sent sécurité, on sent qu'on va se sentir accepté par l'autre parce qu'on a un comportement qui correspond à la norme qui est entendue par l'autre en même temps. Maintenant, la norme, c'est aussi une distribution. La vraie norme, entre guillemets, elle n'existe jamais vraiment. C'est une distribution autour de la moyenne. Et donc, il n'y a personne, même s'il y a quelqu'un qui disait dans le micro-trottoir qu'elle correspondait à la norme, évidemment, c'est comme l'homme moyen des statistiques. Ça n'existe pas. Ça se distribue autour d'une moyenne et on s'en écarte plus ou moins. Et donc, on se sent plus ou moins tiraillé par rapport à l'image à laquelle on voudrait correspondre ou à laquelle la société voudrait qu'on corresponde.
Ben merci François pour cette petite mise en pratique de la norme, de nous expliquer un petit peu ce que c'est justement. Et sans plus tarder, nous allons écouter une interview que Pascal a réalisée qui s'intitule Carnaval.
Effectivement, et pour cette interview, j'ai rencontré Julien Celdran, qui est artiste plasticien, qui est français, qui est installé à Bruxelles depuis 2002. Il est aussi membre du collectif d'organisation du Carnaval Sauvage de Bruxelles, un carnaval qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine.
Le carnaval, c'est une fête populaire. C'est-à-dire que... de mon point de vue, c'est quelque chose qui vient de la population. C'est quelque chose qui est organisé par le peuple et non pas par les pouvoirs politiques, par exemple. Alors, en fait,
par exemple, le carnaval sauvage.
Le carnaval sauvage, c'est... on pourrait dire qu'on fête le printemps. Parce qu'on s'aligne sur l'équinoxe de printemps. Pour nous, c'est important donc Donc, c'est, en fait, le carnaval, c'est une fête calendaire. Ça rythme le temps. Donc, les différents carnavals, ils arrivent entre... disons la période d'Halloween, donc l'équinoxe d'automne, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, c'est ça la période. Et ça rythme, alors c'est lié à un tas de... Ça peut être lié par exemple à l'agriculture, comme les giles de binge vont réveiller la terre après le gel de l'hiver. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et puis ensuite, comme c'est une fête populaire, ça peut, en fait, ça peut raconter un tas de choses. C'est un peu comme si c'était une narration que le peuple mettait en œuvre à partir de traditions et de motifs qu'il juge important de mettre, de faire vivre. Donc il y a cette histoire d'agriculture, mais il peut y aussi avoir une critique de l'ordre établi, par exemple, et avec des représentations donc du pouvoir, comme le roi ou la police, et puis qui sont inversées, ou ridiculisées, ou tournées en dérision.
Tourner les normes, les valeurs, les faits, les gens, mais question, est-ce que le fait de juger ces normes, c'est... oui ou non, pour mieux les asseoir par la suite. La réponse de Julien Celdran.
Enfin, y a cet élément-là, c'est-à-dire que quand on regarde certaines mascarades rurales, on voit par exemple, une des narrations qui est très répandue, c'est qu'un personnage sauvage arrive dans le village. Donc ça peut être un ours, ça peut être un homme sauvage, ça peut être un tas de possibilités, mais les personnages qui représentent la civilité qui représentent le village, vont dominer ce personnage sauvage et le ramener à l'ordre de la civilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les Pyrénées, pour les fêtes de l'ours. C'est quelque chose de récurrent. Après, y a des carnavals urbains où c'est... Où ces motifs-là, ils ont dérivé et où, par exemple, nous, dans le carnaval sauvage, on va tâcher en fait d'inverser cette narration et de ne jamais en fait représenter cette mise au pas.
D'accord. Okay.
Après, bon, bah voilà, ça c'est une critique, c'est la critique de la soupape de sécurité qui est adressée au carnaval depuis. Je sais pas, les années 50. Je crois que c'est des choses qui sont assez anciennes et qui ont été notamment portées par les critiques marxistes révolutionnaires qui disaient en fait le peuple se défoule dans le carnaval, donc il a plus besoin de faire la révolution, donc le carnaval est un mouvement contre-révolutionnaire.
C'est ça. Voilà, le carnaval sauvage de Bruxelles fêtera donc ses 10 ans l'année prochaine et ce sera exactement le samedi 19 mars. À propos, il espère s'ouvrir à de nouveaux collectifs scènes.
Merci Pascal pour cette interview. Alors François, voudrais-tu réagir à cette interview? Mais avant, je vais te poser une petite question. À ton avis, la société est-elle normale? Pourquoi la folie est-elle considérée à tort comme dangereuse?
Ben, la société produit de la normalité, effectivement, par définition. Je veux dire, elle produit des éléments, des points de repère, qui soient comportementaux, au niveau des idées, qui vont favoriser le lien entre les gens. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, en créant cette normalité, ces éléments intégrateurs, elle exclut aussi ceux qui sont à la marge, qui ne sont pas considérés comme étant inclus dans la société. Et donc, du coup, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que la folie fait peur?
Pourquoi est-ce qu'elle est considérée à tort comme dangereuse?
Pourquoi est-ce qu'elle est considérée à tort comme dangereuse? Mais je crois, après, ça, c'est pas évident de répondre à une question comme celle-là, mais... tout simplement parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, fait peur et est associé à toute une série de caractéristiques négatives. C'est le processus même de stigmatisation, d'associer des caractéristiques négatives, que ce soit le manque de confiance, le manque de fiabilité, ce genre de choses-là, et aussi la dangerosité. Mais on associe des comportements qui, à la base, n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec le comportement réel des personnes, mais on l'associe à des groupes dont on ne comprend pas les caractéristiques ou le mode de fonctionnement. Ça, c'est le processus de stigmatisation. Il suffit qu'il y ait quelques éléments relativement rares ou épars qui permettent de créer cette association entre un groupe social et une caractéristique négative, et c'est parti. Alors évidemment, que ce soit les films ou toute une série d'autres objets culturels peuvent favoriser cette dynamique-là, évidemment.
Mais les gens considérés comme fous, c'est pas comme s'ils montraient peut-être une partie vraie d'eux-mêmes qui ferait peur peut-être à la masse, parce que les gens beaucoup cachent un peu leurs sentiments, ils sont cachés toujours, ils cachent leurs sentiments, il faut toujours avoir ce masque social, et justement ça fait peur, du sens que voilà, eux, ils montrent peut-être quelque chose d'autre, la vraie vérité, quoi, je veux dire, ils ne se cachent plus derrière voilà, cette peau de mouton, comme on dit. Un petit peu dans ce sens-là.
Oui, je suppose. Alors là, c'est moins un point de vue sociologique, mais effectivement, ça peut renvoyer les gens à eux-mêmes. Et peut-être aussi à ce contrôle qu'ils essayent d'avoir sur eux-mêmes et à se rendre compte que c'est possible que ce contrôle sur eux-mêmes disparaisse à certains moments.
Voilà, donc à ce moment-là, ils ne sont plus dans cette normalité, quoi. La norme, cette jauge un petit peu de valeur qu'on se fixe un petit peu tous, un petit peu... au quotidien, justement, pour pas déborder, pour pas montrer qui on est vraiment, quoi, je veux dire, un petit peu.
Parce que ça a aussi des conséquences, simplement, en termes d'exclusion, on peut se retrouver, un peu en dehors de la société, hein, et donc les personnes qui débarquent en psychiatrie pour la première fois, ils ont très peur de ça aussi, hein, parce qu'ils se rendent compte du stigma qui pèse, donc...
Mais en même temps, on nous dit soyez vous-même. Donc c'est un petit peu contradictoire, non ?
Oui, mais tu crois vraiment qu'on dit vraiment ça?
Ben, écoute, c'est ce que...
Moi, je crois
Moi, aussi. Je pense que ça dépend peut-être de la personne qui le reçoit, hein, je ne sais pas, mais j'ai quand même ce sentiment que de plus en plus, dans les livres de développement personnel, des choses comme ça. Donc, c'est quand même fort axé sur cette injonction, en fait, d'être soi-même. Mais évidemment, c'est contredit par plein de publicités ou plein d'autres choses. Mmh. Mais on le dit quand même. Donc, je ne sais pas.
Moi, je suis persuadé qu'on associe une série de normes pour créer un rôle social qui correspond à différentes caractéristiques. On a un rôle social de parent, un rôle social d'employé, un rôle social de bon utilisateur des transports en commun, que sais-je. Et je veux dire, on passe tout le temps d'un rôle social à l'autre comme ça. Et qui on est vraiment derrière cet assemblage de rôles sociaux, en fait, on ne sait pas vraiment. Ce vrai nous-mêmes n'existe pas.
Hein. Ça me fait penser que... Oups, attendez, j'enlève mon masque. Pensez bien.
Toi aussi, t'enlèves ton masque.
Oui, on va le masquer. Oui, oui. Ça me fait penser à cette magnifique chanson écrite par Michel Berger qui s'appelait « Il jouait du piano debout ». C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je pense que ce ne sont de normes. Et vu qu'on est en plein dans la santé mentale, c'est vraiment, ça relève du mental, la norme que l'on s'impose à soi ou à autrui. Je pense aussi qu'à une société donnée, le fait de se retrouver seul à côté du groupe faisait que les personnes qui étaient seules étaient considérées comme des étrangetés et comme des sorciers. Le rapport à la solitude a aussi fait que l'instinct grégaire a fait que si on n'était pas inscrit dans le groupe, eh ben on posait question. Et dans nos sociétés de plus en plus individualistes, quelque part, la norme, quand on dit le soyez vous-même, ça inclut aussi créer sa propre norme, donc évidemment il y a toujours un paradoxe.
Gwendoline, tu veux réagir?
Oui, mais je crois aussi qu'il y a différentes normes à différents âges et que le stigmatisé ou celui qui, par exemple, tombe malade à un certain âge, hein, tout dépend lesquels, est confronté à partir du moment où il se confronte, par exemple, au monde professionnel où il se rend compte que là, qu'il y a ce masque dont tu parles, qui est ce masque social qui existe, et il se rend compte aussi que les normes ne sont plus les mêmes ou qu'il y a des normes en plus, c'est-à-dire au début, à un âge plus jeune, on a la famille, les amis, et puis après, il y a le monde professionnel. Et donc, je crois que retrouver une norme aussi pour la personne stigmatisée ou la personne qui a plus de difficultés dans la vie, c'est aussi être arrivé à s'adapter et dans la communication et à s'adapter aux normes et aux nouvelles normes en plus qui s'ajoutent aux différents âges de la vie. Voilà, donc je crois que c'est important ce que tu soulignes, Sana, par rapport à cette question de la norme et des effets positifs que peuvent être la norme pour même des stigmatisés, des effets positifs d'intégration. Je crois que les stigmatisés ont difficile à s'intégrer parce que c'est peut-être interne, mais il faut aussi interne, c'est peut-être dans leur manière d'être, dans la manière de communiquer, mais c'est aussi arriver à accepter qu'il faut s'adapter à différentes normes qui s'ajoutent en plus aux différences des âges de la vie qu'on a, quoi. Ça va dans le cours dans le cours normal aussi de ça. Il y a la famille, les amis, et puis il y a de différentes normes qui s'intègrent dans le cours de la vie, quoi.
Chantal ?
Et justement, à juste titre, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que souvent, quand on est stigmatisé, ben, on finit sur une croix.
Oh, ça nous rappelle Jésus. On n'est pas loin de...
de l'introduction, mais c'est pas encore la fin de l'émission.
Voilà, voilà. Mais donc merci pour ces interventions et nous allons écouter justement un nouveau micro-trottoir qui va reprendre cette thématique, la normalité et la folie. Et te sens-tu, toi, dans les clous ou hors des clous?
Ça dépend où je suis et avec qui.
En décalage, souvent. Oui, en décalage avec l'extérieur, oui.
Carrément hors des clous et sans scrupules. Désobéissance civile de Kenny Arcana. Comme ça, je fais passer un message en même temps.
Bonne question.
Qu'est-ce que... C'était normal.
Je suis peut-être dans une certaine norme, on va dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être normal, quoi? Mais personne n'a envie d'être normal, en vrai. C'est pas agréable de ressembler à tout le monde, puisqu'il s'agit de correspondre à ce qu'on attend. Donc non, j'espère que non. Je me sens pas normal, j'espère que je ne le suis pas.
Je me sens plutôt dans les clous, hein. Hétéro, vie de famille plus ou moins rangée. Bon, on veut pas d'enfants, c'est peut-être ça qui nous distingue un peu. À part ça...
Mais pour toi, la folie, c'est d'être normal ou anormal ?
On est tous un peu fous, non ?
La folie, c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais c'est quelque chose qui arrive. Nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est.
Toujours en désordre, on peut dire ça comme ça, le terme exact, c'est désordre un peu partout, que c'est dans le monde. C'est du fait de plusieurs facteurs. Je pense que c'est tout le chaos orchestré au niveau mondial, etc., qui fait que ça agit sur le subconscient des gens, que ça agit sur la personnalité, la pensée des gens.
La folie ? Bah, je sais pas, moi... la folie ? Mais... c'est quand les autres prétendent que tu n'es pas comme eux. C'est tout. Parce que quelqu'un qui... Peut-être que lui, il est bien dans son truc, quoi. Je veux dire...
C'est normal.
Oui. Donc... je dirais la folie des uns, c'est la folie des autres, ou un truc comme ça, quoi.
Bon, il y a aussi, encore une fois, de folie. Je pense qu'il y a la folie bienfaitrice, un peu, qui fait du bien de temps en temps, un petit peu de sortir des clous, justement. Puis il y a la folie quand elle part du côté un peu plus négatif, où à partir de ce moment-là, il faudrait que pratiquement les personnes qui entourent une personne folle, mais qui part un petit peu et qui se fait du mal, en gros, que les gens autour d'elle... ce souci d'elle, essaye de trouver des solutions.
Ben merci pour ce micro-trottoir. Et je vais demander à notre invité qu'est-ce que ça provoque en lui, justement, tous ces questionnements, toutes ces questions par rapport à la folie, être dans les clous, hors des clous, c'est quoi la folie ? Un peu de manière générale ou voilà, plus précise.
Mais vous voulez aussi réagir, si je peux me permettre.
Oui.
Le premier disait, ça dépend, ou la première, je ne sais plus, ça dépend avec qui je suis ou où je suis.
Ouais.
Et ça rejoignait bien ce qu'on disait juste avant, parce qu'effectivement, on est là dans un contexte où on n'a plus une seule société avec un ensemble de normes bien établies. C'est assez éclaté, que ce soit en rapport avec les âges de la vie ou en rapport avec les différents univers sociaux qu'on fréquente. Et donc, finalement, ça nous laisse la possibilité de créer des normes sociales alternatives et donc des groupes sociaux qui sont un peu plus stigmatisés ou qui sont un peu plus mis au banc de la société peuvent très bien finalement recréer un univers dans lequel ils se sentent bien avec d'autres normes sociales, quoi. Donc finalement, le contexte actuel nous permettrait ça. Et donc là... créer des contextes où on se sent bien entre personnes qui ont vécu des épisodes qu'on peut associer à de la folie. C'est une manière de réinterpréter la norme, finalement.
Ça serait comme une soupape de sécurité. De temps en temps, on lâche un peu, voilà, on va dire, le gaz pour pas péter les plombs. Et il y a des moments où on se dit, ben voilà, je lâche un peu le tout, je suis dans un autre personnage que ce personnage un peu contient tous les jours, quoi, avec cette norme sociale d'être bien tout le temps, de ne pas montrer ses émotions. Mm-hmm. Parce que ça peut être, voilà, ça peut être dire qu'on est un peu faible ou montrer autre chose de soi. Donc voilà, il faut être tout le temps bien dans cette norme un peu de la vie de tous les jours.
C'est ça, il peut y avoir des espaces où voilà, on fait face à la norme qu'on attend de nous. Voilà, quand on va à la réunion des parents d'élèves, ben, on met un masque particulier. Et puis quand on se retrouve dans un bar associatif avec des gens un peu bizarres, ben, là on peut laisser tomber ce masque-là ou en mettre un autre finalement. Parce que peut-être que c'est un autre masque, mais on joue avec ces différents masques. Peut-être qu'on peut trouver un équilibre comme ça.
Mais après, voilà, par rapport à notre personnalité, il y a des moments où on veut être peut-être quelqu'un d'autre pour un peu échapper à sa réalité, sa petite routine qui peut être parfois lourde, justement, de porter beaucoup de choses en soi, d'être un adulte dans une société où tout doit marcher. Et de temps en temps, voilà, faire des petits pas de côté, je pense que ça peut faire du bien. Ou voilà, en parlant de carnaval, de se déguiser, ou de comme par exemple au carnaval de Dunkerque, les hommes à ce moment-là se déguisent en femmes, justement, parce qu'ils changent un peu les normes et ils peuvent se lâcher pendant une semaine ou 10 jours, voilà, selon la durée du carnaval. Mais voilà, cette folie peut être aussi une sorte de rôle dans lequel on va rentrer un petit peu.
Ouais.
de temps en temps pour continuer la route.
Mais en même temps, c'est vrai que j'ai l'impression que assumer comme ça une articulation qui fonctionne pour nous entre ces différents rôles sociaux, ouais. c'est quand même une énergie, quoi. C'est quand même du boulot, en fait.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où on rentrait dans un rôle social et on était peinard dedans et on ne nous demandait pas finalement de créer notre vie en articulant ces différents rôles sociaux et on pouvait se reposer sur les structures sociales. Alors c'est vrai que du coup, là maintenant, l'avantage de ce contexte un peu éclaté, c'est qu'on peut créer des normes un peu alternatives où on peut être un peu plus tranquille, mais en même temps, ça veut dire qu'on doit l'assumer un peu plus nous-mêmes, quoi. C'est plus de responsabilités qui pèsent sur nos épaules et ça peut être chaud, quoi.
Je rebondis là-dessus. Je pense que ça correspond à ce qu'on appelle en sociologie l'anomie, si je ne me trompe pas.
Ah, oui, enfin, c'est une des réactions possibles quand on se retrouve dans un contexte où on fait face à trop peu de normes pour se sentir intégré. On est dans un contexte social où il y a trop peu de normes pour nous servir de point de repère, effectivement. Ouais. Et donc, il y a un type de suicide qui est associé à ça, c'est Durkheim.
Durkheim, on est bien d'accord. Ouais.
mais une question en tant que sociologue... à François que je voudrais poser, justement, est-ce que cette norme, est-ce qu'elle change ? Est-ce qu'on remarque un changement, mais voilà, est-ce qu'en tant que sociologue, est-ce qu'on le note dans des cahiers, dire voilà, maintenant on voit que la société est en train de changer avec ses réseaux sociaux, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi, justement, que les gens viennent raconter un peu leurs histoires, de dire, je suis pas normal ou pas très normal, et ils expliquent un petit peu par rapport à leur vécu, etc. Ils aiment bien un peu partager leur vécu, parce que ces réseaux sociaux sont un poids maintenant dans la société actuelle, voilà, qu'on peut pas passer à côté, justement. Hein.
Oui, mais par définition, les normes changent tout le temps et on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de naturel et que ça a toujours été comme ça, mais en fait, ça change en permanence. Après, je dois dire que je ne me suis pas spécialement penché sur cette question-là, mais c'est vrai que quand on voit les influenceurs et influenceuses à
Exactement,
l'heure actuelle
oui.
qui ont peut-être plus de facilité à parler de leurs difficultés psychiques, de leurs angoisses, etc., c'est un peu à contre-courant de ce que moi j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, effectivement, où on ne parlait pas du tout de ça. Hein.
Oui, d'ailleurs, même au niveau de toutes les questions existentielles de fond, autant avant, on parlait souvent de transcendance et on parlait rarement de l'intime. Maintenant, tout le monde parle de l'intime et moins de transcendance. Mmh. C'est une conversion qui a vachement changé la donne.
Alors, Pascal, sans transition.
Alors là,
nous allons un peu,
transition, oui.
Alors, Pascal a écrit un texte
oui.
qui va nous parler justement de sa propre expérience de la normalité. Elle va nous lire
oui,
ce qu'elle a écrit.
C'est un texte que je vais vous livrer, effectivement, que je livre pour la première fois et qui s'appelle donc, effectivement, donc, d'une normalité à l'autre. Novembre 89. Accroche-toi. C'est toi qui me parles. Assis sur le lit de la grande chambre de devant, tu voudrais revenir en arrière. Qu'il était doux le temps d'avant la fatigue et les tourments. Je te demande tout le temps si tu m'aimes. Tu me réponds, tu me rassures. Je pleure, que s'est-il passé ? Rien. Que je sache. J'ai besoin de regarder les photos que tu vas chercher, celles où je souris. Je crois encore que je t'aime et je te le dis. Je suis enceinte. La naissance de notre premier enfant est prévue pour janvier. Je n'ai plus goût à rien. Je pense à mourir, c'est nouveau. Je me demande où tu es, que fais-tu ? Tu travailles, très certainement. La douleur, partie de mes deux pieds, irradie dans tout le reste du corps, jusqu'à mon âme. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je te dis alors que j'ai besoin d'aide, que je ne m'en sortirai pas seule. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de psy, tu me dis. Tu n'es pas malade. Tu ferais n'importe quoi pour me faire plaisir. Exemple, aller chercher des fraises en plein hiver pour le bébé. Mais je ne veux pas de fraises. Je crie encore pour des photos où je souris. Je pense que je n'ai jamais été heureuse, jamais. Je pense ça très fort et j'ai mal de penser ça. J'enfouis mon visage dans l'oreiller. Il ne faudrait pas que le soleil d'hiver éblouisse la jeune femme vêtue de noir que je suis. Mais qui est-elle exactement, cette jeune femme ? Je ne sais pas. J'attendrai quelques longues années avant d'en avoir une idée un peu claire et précise. À propos, j'ai caché à nos familles respectives et à nos rares amis cette période de mélancolie qui ne portait pas encore son nom. Cette grossesse me fatigue tellement. Janvier 90, Nina naît en bonne santé à l'hôpital B de Bruxelles. À peine notre fille a-t-elle vu le jour que je demande à la sage-femme « Est-ce que tout est bien normal ?»« Oui, me répond-elle, n'est-ce pas évident puisqu'elle est là, devant vous ?» Février 90, c'est normal ça, n'est-ce pas ? Je n'ai que ces mots à la bouche quand je décide enfin de parler. Je choisis pour m'écouter et sous les conseils de mon gynécologue, une toute jeune psychiatre, le docteur Elvire Évrard. C'est ainsi qu'un jour, je me retrouve assise dans la salle d'attente du pavillon de gynécologie. Et tout d'un coup, la porte du petit bureau s'ouvre et je vois apparaître une toute jeune femme à l'allure très assurée. Elle lance à l'Assemblée mon nom. J'ai replié mon journal, et j'étais journaliste, il fallait que cela se sache, et je me suis levée. Je portais ce jour-là une petite robe noire en coton qu'on boutonnait sur le devant. Je l'aimais beaucoup, cette robe, une taille 38. Je m'assieds en face du docteur qui me lance d'emblée. « Quel genre de mère avez-vous eu ?» Je lui réponds « Parfaite ». Elle est apparue très étonnée avant de me poser cette seconde question. « Et avez-vous tendance à vous identifier à elle ?» Je lui réponds « Je ne sais pas ». À cela, elle m'a répondu « Ah, vous ne savez pas ?» Un peu comme si elle avait tout compris avant même d'avoir commencé. En partant, elle m'a demandé si je voulais éclaircir tout ça. J'ai dit « Peut-être ».
Merci Pascal pour cette expérience de et c'est voilà de la maternité
et de la normalité
et de la normalité
qui s'en va tout doucement pour passer à une autre à une folie et à tout autre chose.
Et nous allons revenir à notre invité voilà qui doit répondre aujourd'hui à nos questions. Alors j'ai d'autres questions à vous poser. Alors à certains moments de l'histoire, les personnes dites folles ont-elles pris elles-mêmes certaines places ?
Ah, c'est une bonne question. Mais
c'est récent quand même, non ?
Ben, je sais que allez, le funambule, à un moment donné, ils avaient listé toute une série de grands hommes qui avaient des troubles bipolaires pour les mettre en évidence.
Oui.
En fait, là, je serais bien incapable de pointer toutes les personnes qui ont eu des troubles psychiques importants et qui ont eu des rôles importants dans la société.
Nous connaissons des parasites cérébraux. Pardon, je vous ai interrompu. Non.
Non, pas de souci.
Non, je disais, nous connaissons des parasites très célèbres qui ont eu un grave impact sur l'histoire.
Peux-tu nous citer quelques noms plus précisément ?
Un peu moustachu, on va dire. Un peu nerveux. Un peu dangereux, surtout.
Ouais. Mais voilà, avec une certaine folie.
Mais là, justement, on va dans le sens de d'associer la folie à la dangerosité. Mais non. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, heureusement.
Les personnes
qui ont eu des difficultés psychiques et qui sont célèbres et qui ont eu un impact.
Oui, mais est-ce qu'elles se mettent pas dans le sens certaines places, est-ce qu'elles se mettent pas elles-mêmes d'une certaine manière au banc de la société, ou est-ce qu'elles sont mises justement au banc de la société ? C'est un peu ça la question, de savoir quelle est la place de ces personnes. Est le juste milieu en fait, justement dans l'histoire qui a changé au cours du temps. Avant, les personnes folles, on les mettait un petit peu au banc de la société, elles étaient stigmatisées. Voilà, on disait, lui, c'est le fada du village, on ne le touche pas. On le savait, quoi, c'était de loin. Mais maintenant, c'est pris en charge. La folie est intégrée dans la société. Parce qu'on crée des institutions, des...
L'organisation des soins, ça s'améliore clairement de ce point de vue-là. Puisque, oui. Effectivement, l'objectif premier n'est plus de mettre les personnes qui ont des troubles psychiques loin, dans des hôpitaux psychiatriques, à la campagne, sans aucun contact avec la société. Oui. Et on développe de plus en plus des outils qui permettent de faire en sorte que les personnes puissent prendre un rôle dans la société qui leur convient, qui est valorisant et voilà, qui leur permette de se sentir utile à leur environnement. Maintenant, est-ce que pour autant on est déjà arrivé à un contexte où la folie va être associée à des caractéristiques positives et du coup on va se dire en voyant arriver une personne à un entretien d'embauche que ah tiens, elle a telle expérience de la folie, du coup c'est positif et intéressant de l'embaucher. Je crois qu'on n'y est pas encore, hélas. Mais en tout cas, la première étape qui est d'offrir des accompagnements dans la communauté qui permettent aux gens de trouver une place dans la société, c'est une première étape indispensable. En Belgique, on n'investit pas encore suffisamment pour le soutien à l'emploi quand on sort de psychiatrie. On a encore beaucoup de boulot de ce point de vue-là.
Officiellement, on explique à des personnes qu'elles ne devraient pas avoir difficile à s'intégrer dans la société après une sortie de l'hospitalisation. Or, après la sortie de l'hospitalisation, il y a parfois encore un temps de réadaptation. Et puis on les enfin, je ne vais pas materner les fous, mais je veux dire, on les lâche dans la société et on leur dit que en fait, elle répond. Enfin, la société a des attentes, c'est d'avoir des gens qui travaillent, mais les avait dit auparavant, mais répond au fait qu'ils font croire ou ils devraient avoir des entreprises, par exemple, devraient avoir des quotas de gens qui ont plus difficile à s'intégrer. Or, est-ce que c'est ça qui se passe dans la réalité? Pas tellement. C'est un peu. Difficile de croire, enfin, on ne peut pas croire aujourd'hui concrètement face à la réalité sociologique qu'en fait on ne s'accepte plus dans la différence. Mmh. On ne s'accepte plus dans la différence. Moi, j'aimerais quand même revenir petit instant sur le deuxième micro-trottoir qu'on a écouté, sur le fait qu'on disait que la folie pouvait agir sur la pensée. Est-ce que être fou, c'est avoir une pensée donc anormale? Ça, c'est ma première question. Ou une pensée plus déviante? Est-ce que le contraire de une pensée plus déviante, plus déviante? Voilà. Est-ce que j'aurais aimé revenir sur donc dans le deuxième micro trottoir qui est passé il y a un petit bout de temps, j'ai pris des notes. Donc personne n'est parfait. Et donc la folie agit sur la pensée. Il y avait quelque chose par rapport à ça qui m'intriguait. Qu'en pensez-vous par rapport à la norme, à la parce qu'on parle beaucoup de voilà. Que pensez-vous de ça?
Ben, oui, en quelque sorte, d'un point de vue sociologique, la folie produit des comportements ou des pensées qui sont dans la distribution des comportements considérés comme normaux, qui sont dans la queue de gauche ou de droite, et donc qui sont considérés comme anormaux. Ça c'est
oui, mais
ça, c'est sûr.
Pensée et comportement, c'est quand même deux entités complètement différentes aussi. Je veux dire, pour moi, ça n'a rien à voir, en fait.
Ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'on ne juge, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, ou des personnes qui ont été un peu classées anormaux ou fous, qu'on jugeait un peu votre pensée aussi, non pas vos comportements,
oui, c'est
mais
ça.
Votre manière de penser.
Exactement.
Est-ce que alors être fou, c'est manquer de style? Enfin, quelque part, c'est pas normal non plus que par exemple un médecin, on peut juger un comportement lié à la dangerosité, parce qu'aujourd'hui on fait des fous des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour la société, mais est-ce qu'on ne peut pas juger une manière de penser non plus, vous comprenez, ce qui fait partie de l'esprit, enfin, ce qui fait partie de la pensée doit aussi appartenir à la pensée. Enfin, je sais pas si je m'emballe dans d'autres choses.
Mais... Si, mais c'est intéressant parce que finalement, on peut se dire que cette question de style ou même d'étiquette, c'est intéressant aussi parce que finalement, il y a aussi une question sociale là derrière. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont associés à différentes classes sociales ou différents univers sociaux. Et donc, parfois, ça peut être assez facile d'étiqueter des comportements comme étant liés à la folie ou à une étrangeté qu'on comprend pas, alors que c'est une norme, mais d'un autre groupe social. social. Et très souvent, finalement, ceux qui jugent les autres dans le domaine de la psychiatrie, ben, ils n'appartiennent pas nécessairement aux mêmes classes sociales ou aux mêmes univers sociaux que...
Ou aux mêmes cultures aussi. Des clichés, aussi ouais. Des cultures, voilà.
Voilà, tout c'est à fait, ça.
Parce que culturellement, on vit dans un monde grand et que personne ne s'accorde sur... Enfin, personne ne s'accorde... Enfin, il y a quand même beaucoup de croyances très différentes hein, dans le monde entier et de diversité culturelle. Alors, c'est beau, la diversité culturelle, mais on se rend compte parfois qu'on ne se comprend pas non plus face à la diversité culturelle. Mmh. Est-ce que c'est normal aussi quelque part ?
Ça fait penser au film E.T. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film E.T.
Bien sûr. Un film
d'anthologie. Est-ce que tu peux retourner à la maison ?
Ouais. Téléphone maison. Mais j'aimerais bien rebondir justement en proposant une question à notre invité, rebondir justement là-dessus. Alors la folie permet-elle d'échapper aux normes ? L'univers judiciaire, le contrôle judiciaire, l'univers pénitentiaire. Ça permet justement de ne pas voilà, sortir un peu de simuler une certaine folie ou voilà, pour ne pas être justement dans... Même quand on faisait, je pense, son service militaire, quand on regardait des films à l'époque, c'était un peu ça, quoi. Je veux dire, justement, il fallait se faire passer pour fou pour ne pas aller justement dans ce côté sociétaire, de suivre un peu...
Oui, ça peut être une solution pour s'échapper d'environnement trop oppressant, mais alors ça veut dire qu'il faut recréer du collectif sur cette base-là. Hein. On peut pas faire ça tout seul. Il faut recréer du collectif sur base d'autres normes. Alors, et à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose de positif. Et puis finalement. Peut-être que ça peut avoir de l'influence sur les normes dominantes. Et on a déjà vu hein, des normes sociales qui sont nées dans des environnements un peu à la marge et qui finalement ont fini par influencer la norme sociale dominante. C'est possible aussi. Hein.
Surtout dans le monde de la mode, mm-hmm. où les mouvements punk venaient de milieux alternatifs et qui ont pu après être repris dans le monde de la mode. Donc mm-hmm. C'est une question de moment. Voilà.
C'est vrai.
Mais aussi une autre question, guérir implique-t-il toujours de devenir ou de redevenir normal ?
Ça renvoie à la question du rétablissement qui a tendance justement à ne pas mettre en évidence l'idée de guérison, mais l'idée d'une transformation. À travers un processus de vécu des difficultés psychiques et donc d'aller vers un autre soi, une transformation de soi-même plutôt qu'un retour à l'état initial. Et donc peut-être que l'idée de guérison n'a pas beaucoup de sens dans ce sens-là.
Mais se rétablir, c'est aussi quelque part pour certains, en tout cas, je pense pour les scientifiques ou... redevenir ou devenir normal. Puisqu'on leur demande, c'est toi-même qui, je pense, qui me l'avait dit, puisqu'on demande à la personne d'être stable depuis 2 ans, d'avoir des amis, il y a tout un certain nombre de critères qu'il faut réunir pour être considéré comme rétabli.
Oui, mais ça dépend justement de la définition du rétablissement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que il y a le rétablissement au niveau clinique, et c'est ce que tu dis, effectivement. Il y a des études qui prennent comme base le fait qu'on n'ait plus de symptômes handicapants depuis 2 ans, qu'on est de nouveau intégré socialement de telle ou telle manière. Et donc ça permet de faire des études scientifiques qui permettent de déterminer si telle ou telle prise en charge est efficace, avec un point de repère bien clair. Mais après, le mouvement des usagers de la psychiatrie a repris ce terme de rétablissement pour mettre plutôt en évidence, pas cet élément objectif, mais plutôt le voyage de transformation personnelle, en valorisant cet aspect-là plutôt que l'aspect retour à l'état initial, si je puis dire. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est vraiment un processus de réappropriation de termes qui sont plutôt issus de la hiérarchie médicale et du pouvoir qui y est associé. Et donc en recréant une nouvelle norme associée à ce terme-là, et en le rediffusant, quelque part, les usagers de la psychiatrie ont gagné une sorte de bataille culturelle en arrivant à redéfinir ce terme-là.
C'est comme ça que je voyais la question un petit peu avec la place tout à l'heure. Donc c'est, les usagers de la psychiatrie ont pris une place, en fait. Disons ces 15 ou 20 dernières années, je pense que oui, on entend quand même le discours de plus en plus distinctement, je dirais. Et voilà, ça c'est intéressant. Hein.
Tout à fait. Et c'est là, en quelque sorte, une norme qui est en train d'évoluer grâce à l'influence des gens qui, a priori, étaient moins en position de faire évoluer la norme. Hein. C'est clair que c'est plus facile de faire évoluer la norme à propos de santé mentale quand on est psychiatre que quand on est patient. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même qui ont réussi à le faire. Quoi.
Mm-hmm. Dans le sens où certains patients ont changé un petit peu la norme, ont obligé justement le praticien à changer son point de vue, parce que peut-être lui, il a étudié des choses un peu toutes faites, établies, ben, il se base toujours sur une norme, hein, justement, et justement, ça peut changer, ça peut faire changer de point de vue, un peu faire basculer, oui. De dire...
Oui, le mouvement du rétablissement, c'est ça, c'est-à-dire, ben, voilà, nous, on a envie de nous prendre en charge nous-mêmes à travers des pratiques d'entraide et de se doter d'outils qui nous permettent d'avancer différemment selon nos valeurs à nous et pas nécessairement comment la psychiatrie en tant qu'on avance et qu'on évolue nous-mêmes. Et puis, ça a fait un retour et ça a influencé la psychiatrie derrière.
Il y a quand même toujours cette question de pouvoir, donc entre le praticien psychiatre peut-être et alors son patient en fait. Et ça, on n'est pas sorti de l'auberge, je dirais, peut-être.
Ben merci pour ces réactions. Ben Chantal va nous lire une petite chronique suivie d'un horoscope.
Oh, vous savez, c'est une histoire de dingue, cette folie, c'est énorme. Pour moi, l'énorme préjudice créé par les normes est qu'elle crée un décalage sur la perception de sa réalité. Chacun voit midi à sa porte, c'est bien connu. Ce qui est normal pour l'un est sous d'autres latitudes complètement absurde. Qui mange du chien en Belgique et qui est modeste en France. Vous voyez le délire ? La folie est de croire que l'on obtient un autre résultat en faisant la même chose, disait un grand savant. Par contre, ce qui rend dingue, c'est la perversité d'une société donnée qui fait douter de sa sensibilité propre. Elephant Man n'est pas un mythe. I am a human being. I am not an animal. Je suis un être humain, je ne suis pas un animal. Merci David Lynch pour ce si beau film. Maintenant, passons aux étoiles. Psychanalyse des étoiles. Qu'est-ce la norme selon les astres ? Quel est le désastre pour chacun ? Commençons par le bélier. Rester béat devant la passivité d'un être sans vie vous endort profondément. L'entrain et l'enthousiasme vous stimulent, l'inverse vous ennuie. Action Man est votre plus sûr allié. Taureau. Il ne faut pas quitter son périmètre carré. Restons bien ancrés dans les habitudes enracinées. La maladie du bouger-bouger n'est pas pour vous. Un peu de calme en sirotant un bon porto sans effrayer son voisin. Gémeaux. La normalité dans votre posture adolescente vous casse la tête. Vous qui êtes si curieux de bizarreries en tout genre. La norme, c'est plutôt elle qui vous fuit. Cancer. Un mal fou à voir le monde sans émotion. La norme est de comprendre qu'un monde sans une famille humaine baignée dans une nostalgie camaradesque est tout simplement immonde. Lion. Être à l'antithèse de l'amour de soi vous répugne. Être fier n'a jamais fait de mal à quelqu'un. La médiocrité ne vous atteint guère. Vierge. Trop de sensiblerie vous fait peur. Vous devez couper les cheveux en quatre pour vous sentir exister. Lol. Balance. Je prêche pour ma paroisse. Accrochez-vous.
Ça balance pas mal.
Être un parfum qui en jette plein la vue vous emprisonne. Les normes, vous les respectez plus que de raison. Stop le masque, marre du toc. Scorpion. L'étrangeté d'une sculpture de Rodin, qui était scorpion, vous rappelle vos profondeurs abyssales, source d'énormes conflits. Sagittaire, s'agit-il de se taire ? Rester sur place sans débattre, trop vulgaire. Capricorne, la reconnaissance sociale vous sécurise, quitte à rendre les autres dingues. Verseau, les normes, vous les balancez d'un revers de la main. Vive l'originalité. Poisson, trop de brouillard vous invite à rassembler deux ou trois normes pour plus de cadre. Savoir dire non à ce qui touche aux frontières est très salvateur. Voilà.
Merci, merci
Chantal.
Alors nous allons poser, j'espère, une dernière petite question à notre invité qui a été très sollicité aujourd'hui sur cette question de normes. Alors, une personne en trouble, en handicap, n'est-elle pas trop clairvoyante par rapport aux normes de la société ? On a vite fait de la dire inadaptée. Comment ne pas craquer justement par rapport à la norme ? Et quel sacrifice est-ce qu'on est prêt à faire pour entrer dans cette fameuse norme ?
En tout cas, s'il y a un service que rendent les personnes anormales, c'est de nous faire prendre conscience de la norme, justement.
C'est ça, oui.
Parce que c'est en la questionnant, finalement, à travers les comportements ou les éléments qui la mettent en évidence, qu'on peut se rendre compte de ce qu'est la norme. Donc oui, d'une certaine manière, finalement, il crée la norme en la remettant en cause, en la questionnant, en la mettant en évidence.
Ah.
Donc voilà, donc quelque part, c'est un côté salvateur. Enfin, je veux dire, quelque part, la norme n'existerait pas sans les anormaux, finalement.
Mais justement, parfois, il y a des sacrifices qui sont faits pour justement entrer dans la norme. Par exemple, on va dire un couple, voilà, d'être marié, d'avoir un enfant. Des fois, ça ne convient pas, mais par rapport à la société ou par rapport à sa propre culture, on se dit, voilà, c'est ça la norme dans laquelle on est né aussi, justement.
Oui.
Et on ne remet pas toujours en question ces normes.
Et on peut très bien ne pas y arriver. Hein. Je veux dire, dans certaines situations, on se sent vraiment pleinement contraint par la norme, même si on en a conscience.
Ça peut créer beaucoup de souffrance, justement. Des gens, ils passent une vie à souffrir, justement, pour se dire, ben voilà, je suis dans la norme, ça ne me convient pas, mais voilà, parce que je ne peux pas sortir de cette jauge par rapport à certaines cultures, ou voilà, par rapport à la société, de dire, je me sens plus normal d'être marié, d'avoir un enfant, d'avoir un travail, de pas sortir un peu des clous, comme on a parlé un petit peu.
Assumer de sortir des clous, ça peut être très dangereux, quoi.
Voilà, ça.
Enfin, en tout cas, ça peut faire très peur.
Mais aussi une question justement de sortir des clous. Il y a des gens qui se sentent bien, mais d'une certaine manière, est-ce qu'ils sont pas plus adaptables de venir justement d'être hors des clous, dans les clous, justement, ils ont cette jauge un peu de pouvoir jouer un petit peu avec ça. C'est ça qui est aussi intéressant, peut-être.
Tout à fait. Et peut-être justement qu'avec les années, on se rendra compte que les personnes qui ont justement cette trajectoire de rétablissement, elles ont une autre vision de la vie, d'autres capacités qui se sont développées à travers ça, et que ça a une place et un bénéfice pour les autres.
Mais il y a aussi une question importante. Donc, on est de plus en plus nombreux sur Terre, et justement, beaucoup de gens essayent de sortir un peu de cette norme, justement en allant sur les réseaux sociaux, en essayant d'affirmer autre chose. Il y a des gens, ils se disent, je suis trans-espèce, transgenre, un peu, ils essaient de sortir un petit peu de cette normalité en s'affirmant, en affirmant haut et fort leur statut, justement. Et en tant que sociologue, c'est quoi votre point de vue un peu par rapport à ça
Ouais, j'ai l'impression que de toute façon, on voyage d'une norme à l'autre de toute façon. Je veux dire, on peut pas échapper. On n'est jamais sans normes. On est toujours en train d'essayer de correspondre à un ensemble de normes. Alors peut-être qu'on se débarrasse d'un rôle social pour plonger dans un autre. Mais je crois qu'on n'y échappe jamais vraiment totalement, en fait.
Mais en tout cas, merci. Merci François d'être...
Avec plaisir.
D'avoir été parmi nous et de débattre avec nous de cette question hyper importante, justement, la normalité, et de nous avoir donné un point de vue sociologique. Merci, voilà. Merci à nos chroniqueurs d'avoir été hâtés. Excusez-moi.
Mais avec plaisir.
Voilà, merci.
Super. Merci à tous.
Alors,
merci.
Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, et j'espère que nous allons nous retrouver assez rapidement pour de nouvelles aventures et de débats passionnants autour de cette table.
Troisième lundi du mois.
Voilà, merci d'avoir été avec nous sur Silence Radio, Radio Panique. Merci.
Au revoir.
C'est normal.
Ouais.
La 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 la